36.
Urg, fait Holly lorsqu'ils approchent du bureau désert au centre de l'étroite boutique de Andrew Hallyday. C'est quoi cette odeur?
Du sang, répond Hodges. Ça sent aussi la viande avariée, mais il n'a pas envie d'en rajouter. Vous deux, vous restez là.
Vous êtes armé? Demande Jérôme.
J'ai mon slapper.
C'est tout?
Hodges hausse les épaules.
Alors je viens avec vous.
Moi aussi,
dit Holly. Et elle s'empare d'un bouquin volumineux intitulé « Plantes et fleurs sauvages d'Amérique du Nord ». Elle le tient brandi, comme si elle comptait s'en servir pour claquer un insecte piqueur.
« Non, » leur oppose Bill patiemment. « Vous allez rester sagement ici, tous les deux, et faire la course pour voir lequel des deux appelle le 911 le premier, si je vous crie de le faire. »«
Bill, » tente Jérôme.
« Discute pas, Jérôme, et perdons pas de temps. J'ai idée que le temps pourrait être compté. »
Une intuition ? Demande Holly.
Peut-être même un peu plus.
Hodges sort le happy slapper de la poche de son veston. Il l'emporte quasiment toujours à présent, alors qu'il porte rarement sur lui son ancienne arme de service, et l'empoigne au-dessus du nœud. Il avance rapidement et silencieusement en direction de la porte qu'il pense être celle du bureau privé de Andrew Hallyday. Elle est légèrement entrebâillée. L'extrémité chargée de billes du slapper se balance au bout de sa main droite. Il se poste légèrement en retrait d'un côté de la porte et frappe de sa main gauche. Et comme cet instant semble être de ceux où la stricte vérité s'impose, il lance d'une voix forte.
« C'est la police, monsieur Hallyday !»
Pas de réponse. Il frappe une deuxième fois, plus fort, et toujours sans réponse, il pousse la porte. L'odeur est immédiatement plus forte. Sang, décomposition et alcool renversé. Autre chose aussi, poudre brûlée, une odeur qu'il connaît bien, et un bourdonnement de mouches somnolentes. Les lumières sont allumées, telles des projecteurs dirigés vers le corps étendu au sol.
« Oh merde ! Il lui manque presque la moitié de la tête !» s'écrie Jérôme.
Il est si proche que Hodges sursaute de surprise, élevant le slapper pour le rabaisser aussitôt. « Mon pacemaker vient de s'emballer, » pense-t-il. Il se retourne, et ils sont là tous les deux, bouchant le passage, Jérôme à la main devant la bouche, les yeux exorbités. Holly, quant à elle, a l'air calme. Elle serre contre sa poitrine plantes et fleurs sauvages d'Amérique du Nord et paraît évaluer le carnage sanglant étalé sur le tapis. Elle dit à Jérôme
« Dégobille pas, c'est une scène de crime.
Je compte pas dégobiller. »
La voix de Jérôme est étouffée par sa main.
« On peut pas vous faire confiance, » dit Hodges. « Si j'étais votre prof, je vous expédierais au bureau du proviseur. »« J'entre. Vous deux, vous bougez pas de là. »
Il franchit le seuil. Jérôme et Holly, côte à côte, lui emboîtent aussitôt le pas. « On dirait les foutus jumeaux bobsey, » pense Hodges.
« C'est le frère de Tina qui a fait ça ?» demande Jérôme. « Bon Dieu, Bill, vous croyez que c'est lui ?»
Si c'est lui, ça date pas d'aujourd'hui. Le sang est quasi sec. Et il y a des mouches, même si je vois pas encore d'asticots.
Jérôme s'étrangle.
Jérôme, non !
Prévient Holly d'un ton sévère. Puis, à Hodges,
j'aperçois une petite hache. Une hachette ? Peu importe comment ça s'appelle, c'est l'arme du crime.
Hodges ne répond pas. Il évalue la scène. Il pense que Hallyday, s'il s'agit bien de Hallyday, est mort depuis au moins 24 heures, peut-être plus. Probablement plus. Mais il s'est passé quelque chose ici depuis. Parce que les odeurs d'alcool renversé et de poudre brûlée sont fraîches et fortes.
Bill, c'est un impact de balle, ça ?
Demande Jérôme. Il désigne du doigt une étagère à gauche de la porte, près d'une petite desserte en merisier. Il y a un petit trou rond dans un exemplaire de Catch 22. Hodges s'en approche, l'examine attentivement et pense. Ça risque de faire baisser le prix de revente. Puis il regarde la desserte. Deux carafes en cristal sont posées dessus, probablement des Waterford. La desserte est légèrement poussiéreuse, et il distingue la trace laissée par deux autres carafes qui s'y trouvaient. Il regarde de l'autre côté de la pièce, au-delà du bureau, et ouais, elles sont là, renversées par terre.
Sûr, c'est un impact de balle, dit Holly. « Je sens l'odeur de poudre. » Il y a eu une bagarre, dit Jérôme.
Puis il désigne du doigt le cadavre sans le regarder.
Mais lui était déjà hors circuit.
Oui, confirme Hodges. Et les deux adversaires sont déjà partis.
Est-ce que l'un des deux était Peter Saubers?
Hodges pousse un gros soupir.
C'est pratiquement certain. Je pense qu'il est venu ici après nous avoir semés à la pharmacie.
Quelqu'un a pris l'ordinateur de M. Hallyday,
annonce Holly.
Il y a encore son branchement DVD là-bas, à côté de la caisse enregistreuse, et la souris sans fil. Je vois aussi une petite boîte avec des clés USB dedans. Mais l'ordinateur a disparu. Il y a un espace vide sur son bureau là-bas. Ça devait être un ordinateur portable.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Jérôme.
On appelle la police.
Hodges n'en a pas envie. Il pressent que Pete Saubers a de graves ennuis et qu'appeler la police ne pourrait que les aggraver, du moins dans un premier temps. Mais il a déjà joué les justiciers solitaires dans l'affaire du tueur à la Mercedes et ça a bien failli coûter la vie à quelques milliers d'adolescents.
Il sort son téléphone portable, mais avant qu'il ait pu s'en servir, celui-ci s'allume et sonne dans sa main. « Peter !»
dit Holly. Elle a les yeux qui brillent et la voix empreinte d'une certitude absolue.
« Je vous parie $6,000 que c'est lui. Maintenant, il veut te parler. Vas-y, bouge, Bill. Réponds à ton touffu téléphone. »
Hodges s'exécute.
« J'ai besoin d'aide, »
débite Peter Saubers d'une voix rapide.
« S'il vous plaît, monsieur Hodges, j'ai vraiment besoin d'aide. »
« Une seconde. Je mets le haut-parleur pour que mes associés puissent entendre. »
« Vos associés ?»
Peter prend un ton plus alarmé que jamais.
« Quels associés ?»«
Holly Gibney, ta sœur la connaît, et Jérôme Robinson. C'est le grand frère de Barbara Robinson. »«
Ah, alors ça va, je crois. »
Et comme se parlant à lui-même,
« Au point où j'en suis, ça peut pas être pire. »«
Peter, nous sommes à la librairie de Andrew Hallyday. Il y a un cadavre dans son bureau. J'imagine que c'est le sien. » Et j'imagine que tu es au courant. Je me trompe ?
Il y a un instant de silence. Sans la faible rumeur de circulation à l'endroit où Pete se trouve, Hodges pourrait croire qu'il a coupé la communication. Puis le garçon se remet à parler, et ses mots roulent comme un torrent.
Il était mort quand je suis arrivé. C'est l'homme aux lèvres rouges. Il m'a dit que M. Hallyday m'attendait derrière. Alors je suis allé dans son bureau. Il m'a suivi et il avait un revolver et il a essayé de me tuer parce que je voulais pas lui dire où étaient les carnets. Je voulais pas parce qu'il mérite pas de les avoir. Et en plus, il m'aurait tué quand même. Je le voyais bien à ses yeux.
Tu t'es défendu en lui lançant les carafes, c'est ça ?
Oui, les bouteilles de whisky. Et il m'a tiré dessus. Il m'a manqué, mais c'est passé si près que j'ai entendu les balles siffler. J'ai réussi à m'enfuir en courant, mais il m'a rappelé par téléphone pour me dire qu'on m'accuserait, que la police m'accuserait, parce que je lui ai lancé la hachette aussi. Vous avez vu la hachette ?
Oui, dit Hodges. Je suis en train de l'examiner.
Et il y a mes empreintes dessus, vous savez, parce que je l'ai prise pour lui lancer, et il a des vidéos de moi et M. Hallyday en train de s'engueuler, parce qu'il a essayé de me faire du chantage. Hallyday, je veux dire, pas le bonhomme aux lèvres rouges. Sauf que maintenant, lui aussi, il essaie de me faire du chantage. Cet homme aux lèvres rouges a les vidéos de sécurité du magasin ?
Demande Holly.
C'est ça que tu veux dire ? Oui. Il a dit que la police allait m'arrêter. Et c'est vrai parce que je suis allé à aucune des réunions de dimanche à Riverbend, et il a aussi un message vocal, et je sais plus quoi faire.
Où es-tu, Peter ? Demande Hodges. Où es-tu à cet instant précis ?
Il y a un autre silence. Et Hodges sait exactement ce que fait Pete. Il cherche des repères. Il a beau avoir toujours vécu dans cette ville, il est tellement affolé qu'il ne sait plus reconnaître sa droite de sa gauche.
« Government Square !»
dit-il enfin.
« En face du restaurant, là, le Happy Cup ?»«
Vois-tu l'homme qui a tiré sur toi ?»«
Non. J'ai couru et je crois pas qu'il aurait pu me poursuivre longtemps à pied. Il est plutôt vieux. Et on peut pas conduire dans l'Acemaker Lane. C'est une rue piétonne. »
« Ne bouge pas de là, » dit Hodges. « Nous allons venir te chercher. »«
S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Mes parents en mourraient, après tout ce qui leur est déjà arrivé. Je vous donnerai les carnets. J'aurais jamais dû les garder et j'aurais jamais dû essayer d'en vendre. J'aurais dû juste m'en tenir à l'argent. »
Sa voix se brouille. Il est en train de craquer.
« Mes parents, ils étaient tellement en galère. Il y avait tout qui partait en vrille. Je voulais juste les aider. »
Je suis sûr que tu dis la vérité. Mais je dois appeler la police. Si tu n'as pas tué Hallyday, les preuves le montreront. Tu seras innocenté. Je vais venir te chercher et nous allons aller chez toi. Tes parents seront là ?
Papa est en déplacement, mais ma mère et ma sœur seront là, oui.
Pete doit inspirer brusquement avant de continuer.
Je vais aller en prison, hein ? Ils me croiront jamais pour l'histoire de l'homme aux lèvres rouges. Ils penseront que je l'ai inventé.
Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité,
intervient Holly.
Bill ne laissera rien de mal t'arriver.
Elle saisit la main de Bill et la presse farouchement.
C'est vrai, hein ?
Hodges répète. Si tu ne l'as pas tué, tu seras innocenté.
Je ne l'ai pas tué, je vous le jure.
Le coupable est l'autre homme, celui aux lèvres rouges.
Oui, il a tué John Rothstein aussi. Il dit que Rothstein était un vendu.
Hodges aurait un million de questions, mais c'est pas le moment.
Écoute-moi, Pete, très attentivement. Reste où tu es. On sera à Government Square dans 15 minutes.
Si vous me laissez conduire, dit Jérôme, on peut y être dans 10.
Hodges ne l'écoute pas.
Nous irons chez toi ensemble, tous les quatre. Tu nous raconteras toute l'histoire, à ta mère, à moi et à mes associés. Elle voudra peut-être appeler ton père et voir avec lui pour te trouver un avocat. Ensuite, on appellera la police. C'est le mieux que je puisse faire.
Et mieux que ce que je devrais faire, pense-t-il, les yeux fixés sur le cadavre défiguré, se rappelant qu'il a bien failli aller en prison lui-même il y a 4 ans. Pour le même genre d'histoire aussi. De justicier solitaire à la con. Mais bon, 30 ou 45 minutes de plus peuvent pas faire grand mal. Et ce qu'a dit le garçon à propos de ses parents n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hodges était au City Center ce jour-là, et ce qu'il a vu n'était pas beau à voir.
D'accord, faites vite.
On arrive.
Il coupe la communication.
Qu'est-ce qu'on fait pour nos empreintes ?
Demande Holly.
On les laisse, dit Hodges. Allons chercher ce gosse. J'ai hâte d'entendre son histoire.
Il lance la clé de la Mercedes à Jérôme.
Merci, Monsieur Hodges,
glapita Iron Feelgood.
Ce nagua-là, c'est le meilleur chauffeur du pays. Il va vous conduire où vous...
Ferme-la, Jérôme.
Hodges et Holly ont parlé en même temps.